c'est le bordel.
Radio Campus.
On s'affronte, on s'entretue. Mais c'est pour l'amour, et tant mieux.
88.3.
En partenariat avec la Nuit européenne des chercheurs et le réseau Radio Campus France, les Radio Campus présentent Gueule de chercheur, les engagements au quotidien de celles et ceux qui, pour nous ou avec nous, recherchent.
En lien avec la Nuit européenne des chercheurs, l'émission Univox, programme commun de vos Radio Campus, se transforme. Univox Gueule de chercheur est une série de 5 portraits de chercheurs et chercheuses. Ils présentent leur parcours, leurs aspirations et leurs projets. Une façon de mesurer la richesse et la diversité de la recherche en France. Aujourd'hui, rencontre avec Louise Bernard, doctorante en sciences à l'IAE de La Rochelle et découverte de son projet de recherche création.
Notre pièce s'appelle Nos Futurs, c'est un jeu de mots avec Nos Futures, et là nous on l'a mis au pluriel, que peuvent être nos futurs. C'est un parti pris d'avoir une tempête au début, donc quelque chose qui peut paraître, qui est catastrophique, hein, avec des victimes et des dégâts, mais qui finalement peut se révéler positif, où en fait de grands changements peuvent avoir lieu, et c'est vraiment ce qu'on montre qu'en 20 ans, là, une société peut se métamorphoser, réagir rapidement, et mettre en place des projets, des actions, des changements radicaux sur les questions écologiques, sociales, d'équité, pour arriver à une société plus juste, plus vivable aujourd'hui.
Développer des interactions entre science, recherche et société, voilà l'un des objectifs prioritaires de la dernière loi de programmation de la recherche. Au-delà de la réponse aux grands défis auxquels nous faisons face, rénover la place de la science dans la société est également un impératif pour l'avenir de notre démocratie. Cela implique une évolution de la posture des scientifiques dans leurs relations avec les citoyens. Ils ne peuvent plus se contenter d'affirmer une parole scientifique qui serait reçue comme une vérité descendante par des citoyens passifs. Ils doivent s'engager dans un véritable dialogue où s'expriment non seulement les savoirs scientifiques, mais aussi les analyses de leurs limites, les doutes ou les questions qu'ils soulèvent. Pour les scientifiques, ce nouveau mode de relation, plus riche et plus interactif, exige de se mettre davantage à l'écoute des attentes et des questions de la société. Pour les citoyens, il suppose d'avoir accès à une information de qualité, leur permettant de comprendre les avancées scientifiques et technologiques, de discuter de leurs enjeux et d'y participer. C'est pleinement dans cette démarche que s'inscrit le travail de Louise Bernard.
Je suis Louise Bernard, je suis étudiante à l'Université de La Rochelle, je suis en doctorat en sciences de gestion et j'étudie le territoire zéro carbone de La Rochelle et en particulier comment l'art et les récits peuvent être un moyen de mobiliser les citoyens autour de projets de ce type. Et en fait, c'est vraiment des méthodes qualitatives de recherche. Donc, on n'est pas sur des recherches où on va faire des enquêtes à un grand nombre avec des méthodes quantitatives, mais vraiment de l'analyse de données qualitatives. Donc voilà, des notes de terrain, l'analyse de l'écriture qui a été faite, l'analyse du ressenti des comédiens, de par exemple l'échange qu'on a eu à la fin également, de tous ces retours. Puis il y a également un petit questionnaire du public pour venir compléter un petit peu toutes ces données et compléter la recherche. Et c'est ce qu'on appelle une recherche ethnographique où on est vraiment inséré dans son terrain et où la chercheuse, moi, est actrice aussi du projet et est complètement impliquée. Même émotionnellement dans ce qui se passe.
Premier titre ce soir dans nos développements sur la tempête Jidwin, plus grosse tempête jamais enregistrée sur le territoire français, a touché toute la côte atlantique dans la nuit. Les secours recherchent activement les victimes et de nombreux dégâts matériels sont à déplorer.
Tumeurs, des centaines de blessés, c'est le bilan provisoire de la tempête Jidwin. 48 heures. Sécheresse, inondation, tempête. Les événements climatiques extrêmes
se multiplient.
Tu vois, par endroits, le paysage est complètement modifié.
50 jours qu'il n'a pas plu. Non, mais franchement, on savait que ça pouvait arriver à tout moment, mais là.
Je pense que le trait de côte, il a dû reculer de plus de 35
mètres. Vraiment, ça annonce pas vraiment bon pour les mois qui viennent.
Des millions de personnes dans les rues en marge de la 28e COP climat. Le mouvement s'intensifie dans le monde entier.
Oh, j'ai l'impression d'entendre parler que de la loi sur la restriction des jets privés. Plage couverte de gens cherchant à changer de couleur de peau, c'est quand même très déminant.
On va peut-être un peu d'attente car c'est assez saturé.
En 2028, jusqu'à ce que la neutralité carbone soit atteinte, qui est le plus précis?
Le bilan carbone moyen des citoyennes et des citoyens français passerait sous 5 tonnes d'émissions de CO2 par
gouvernement européen déclaré état d'urgence climatique.
Il n'y aura plus d'émissions de champagne.
Sans transition géohistorique, la Terre compte dès à présent 10 milliards d'habitants.
Gueule de chercheur.
Et la naissance du projet, c'était vraiment dans le cadre du projet de thèse, comment mobiliser les gens et comment utiliser l'art. Faisant un peu de théâtre et aimant beaucoup ça, je me suis dit pourquoi pas essayer d'allier le projet Territoire Zéro Carbone avec le théâtre en faisant une adaptation théâtrale des récits de La Rochelle en 2040. Et donc voilà, j'ai un peu essayé de rassembler des étudiants autour de ce projet-là que je connaissais déjà ou pas. Ça s'est fait aussi par le bouche à oreille, qui avaient tous un petit peu fait du théâtre plus ou moins, qui étaient plus ou moins intéressés par ces questions, mais qui ont tous été motivés pour reprendre ce projet-là.
La communauté d'agglomération de La Rochelle porte le projet Territoire Zéro Carbone, devenir la première agglomération littorale neutre en carbone. L'objectif, mobiliser particuliers, entreprises, associations, collectivités autour du but commun, parvenir d'ici 20 ans à la neutralité carbone de son territoire. Dans ce cadre, une quinzaine de récits ont été écrits, mettant en scène des personnages fictifs vivant sur le territoire de La Rochelle en 2040. Ils décrivent une société sobre en carbone, résiliente, adaptée au changement climatique et respectueuse des écosystèmes. Ces récits ont été écrits en partenariat avec le laboratoire du Centre de gestion de La Rochelle. Ils ont inspiré le travail de Louise Bernard.
Nous sommes en 2040. Joanne, Janice, Jean-Baptiste et leurs camarades vivent dans l'agglomération de La Rochelle, un territoire neutre en carbone. Ils vous invitent à vous questionner sur vos modes de vie, à cheminer vers un ou des changements d'habitude. Ces habitants nous parlent de leur métier, de leur nouvelle vie, de leur réussite ou de leur difficulté à atteindre cet objectif de neutralité carbone.
Je suis Jacinthe, je travaille ici sur le chantier naval, sur la gestion de fin de vie des bateaux. L'idée, c'est de valoriser un maximum de matériaux. Ça permet ainsi à la communauté de faire des économies en termes environnementaux et financiers. On recycle même des navires maintenant. Autour de 2020, on est allé passer l'été dans le sud du Portugal, vers Faro. C'était une version de la côte atlantique que je ne connaissais pas, en fait. Il y avait de fortes températures et le vent marin les rendait quand même supportables. Et bien maintenant, à La Rochelle, on a ce climat-là. Et parfois, je me dis que c'est trop tard, en fait, qu'on ne pourra jamais sauver l'océan. C'est un petit peu déprimant comme vision. Donc à mon niveau, je suis quand même contente de pouvoir participer au recyclage.
Je suis Janice, j'ai 43 ans. Je suis née en 1997 à La Rochelle. À la sortie de mon master à l'IAE, j'ai repris l'agence immobilière de ma mère. C'était en 2022. L'océan a gagné du terrain sur les terres. Au fur et à mesure des années, les mutations géographiques de l'agglomération ont fait évoluer mon métier et mon positionnement. Mon agence, à moi, maintenant, c'est un bureau à la maison. Je demande à terre sur le terrain qui trouve des biens et moi, je gère le reste derrière mes écrans. La montée des eaux et l'érosion des côtes des 20 dernières années ont eu pour conséquence un boom des constructions à énergie passive. La performance énergétique des bâtiments aujourd'hui a été considérablement améliorée. Les boîtes de BTP ont bien joué le jeu. Non seulement on a su créer des bâtiments passifs, mais aujourd'hui on a du bâti qui sait créer de l'énergie. Chaque logement, même dans le collectif, peut générer sa propre énergie et donc dégager des revenus. Et ça, c'est très nouveau.
Eh ben moi, c'est Jean-Baptiste. L'année prochaine, j'aurai 60 ans et dans une ancienne vie, je vivais à Paris. J'étais réalisateur de publicité. Quand je suis arrivé vers la quarantaine, j'ai décidé de faire autre chose. J'avais vraiment besoin de faire quelque chose de plus simple, au contact de la nature et ancré vers des relations avec les autres. Ma vie avant Paris, c'était à Angoulins-sur-Mer. Ouais, j'ai grandi là-bas jusqu'à la fin du lycée. Et puis, après, je suis parti. Et avec le temps, je suis revenu. À la base, mon projet était construire des loges de tourisme dans les cabanes de pêcheurs. Mais la côte rochelaise n'est vraiment pas faite pour ça. Et avec la montée des eaux qui était annoncée, ça aurait vraiment périclité. Finalement, avec ma compagne, on a acheté un terrain plus dans les terres. On a commencé à planter des arbres et ensuite, on a monté nos premières cabanes en bois. On propose aussi aux visiteurs et aux riverains des paniers de fruits et de légumes de saison et un circuit de proximité. Tout est produit dans un rayon de 50 km. C'est un plaisir de faire du local. Ouais, on peut être curieux et inventif niveau recette parce que les produits sont plus diversifiés qu'autrefois avec le tout céréalier. Ceux qu'on choisit, en tout cas, sont vraiment de qualité. Cette année, par exemple, on a beaucoup de sorgho grains. On mange aussi beaucoup moins de nourriture fermée. Avec les changements climatiques qui influent sur les productions alimentaires, on prévoit à très 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 court terme. On travaille vraiment avec notre territoire et nos fournisseurs.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
À quoi pourrait ressembler notre territoire dans 20 ans ? S'interroge la pièce. Peut-on imaginer un futur désirable et réaliste tenant compte des limites planétaires ? Plus juste et équitable, respectueux des humains et des non-humains ? L'histoire est celle de Sarah, 24 ans, artiste, heureuse dans son couple avec Alice. Elle se retrouve dans une violente tempête qui la plonge dans le coma. Sarah se réveille 17 ans plus tard dans un monde complètement métamorphosé suite aux catastrophes climatiques et aux urgences sociales qu'elles ont engendrées. Plus d'entraide et une nouvelle relation au vivant. Elle va chercher à retrouver sa place dans cette société nouvelle.
Nous pensons que vous êtes capable d'entendre certaines choses nécessaires à votre réinsertion dans ce monde. Voilà Sarah, le coma dont vous sortez a duré 17 ans et il y a beaucoup de choses que vous allez devoir affronter. D'abord physiquement, vous n'êtes plus la même. Il va falloir apprendre à utiliser votre nouveau corps. Oui, c'est ce que je viens de dire.
Moi, je ne suis pas originaire de La Rochelle. Avant ça, j'ai fait des études d'ingénieur en région parisienne, un petit peu d'économie. Et je suis vraiment venue à La Rochelle pour ma thèse et pour étudier ce terrain de recherche. Et c'est vraiment une ville incroyable dans laquelle on a envie de rester. On a été vraiment bien soutenus pour ce projet. J'étais presque étonnée parce que ça a suscité beaucoup de partenariats et de financements. Notamment, bien sûr, l'université qui nous a accompagnés en premier lieu, qui soutient ces initiatives artistiques étudiantes. Et donc, nous permet de créer ces projets en nous faisant rencontrer aussi des gens, etc. Et puis le CROUS nous a bien aidés, qui travaille donc beaucoup avec l'université, notamment en nous mettant à disposition une salle de répétition, ce qui est très précieux quand on monte une pièce de théâtre. Puis le Crous nous a aidés aussi dans l'accompagnement en fait un peu au fur et à mesure, en nous permettant également de présenter un morceau de la pièce à des étudiants, ce qui a permis de faire une première représentation un petit peu blanche, je pourrais dire. Et donc voilà, c'était vraiment un soutien psychologique aussi. Puis également, ils nous ont proposé d'utiliser certains des habits que laissent certains résidents en partant pour nos costumes. Et puis un soutien financier également nous a été accordé. Tout ça nous a permis de vraiment mener le projet à bien et de faire quelque chose d'assez qualitatif avec peu finalement.
Et alors ? La vie maintenant ? Est-ce qu'elle est mieux ?
Alors là, mieux. Ça, vous en serez seul jugeant.
Et vous, est-ce qu'elle vous convient ?
Alors, Sarah, si vous voulez mon avis, je ne vais pas vous mentir. On est très loin des rêves que j'avais quand j'étais plus jeune. C'est bien dommage, parce que j'y ai cru un moment, véhicule volant.
Les avions ?
Non, un peu de sérieux. Les voitures ou les motos. Partir. Traverser les continents, les océans. Aller en Nouvelle-Zélande dans mon petit van violet. Et puis maintenant, on est plus sur sobriété et quota carbone, et il faut croire que ça plaît à certains. On m'avait toujours vendu que si je travaillais bien, j'aurais une belle maison avec la totale. Belle piscine, grand jardin, des voyages à l'autre bout du monde sur des plages de sable fin. Et maintenant, tout ça est difficile à avoir, ou alors il faut faire face à la pression sociale. Alors je comprends que tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour nous, pour le bien de l'humanité. Mais bon, qu'est-ce que ça me fait chier de devoir mettre de côté tout ce dont on m'a fait rêver.
Dans cette pièce de théâtre, les éléments de décor sont faits maison dans une démarche éco-responsable, favorisant au maximum le réemploi et l'achat d'occasions.
C'est sûr que quand on commence une démarche comme ça, il faut être cohérent et donc il faut que ce soit logique également dans la construction des décors, des costumes. Parce que si on fait une pièce qui parle d'écologie, qui a un impact carbone énorme, c'est pas très logique. Donc voilà, il fallait réfléchir à tout ça. Donc en effet, les décors sont très minimalistes, avec des blocs qui resservent dans des scènes différentes pour représenter différents éléments. Donc on a fait nous-mêmes les plans et on les a montés nous-mêmes, peints nous-mêmes. Pareil, les costumes, bah pour le coup, on avait beaucoup de choses déjà chez nous, puis on a complété avec ce qu'on trouvait en friperie ou au Crous. Et finalement, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup avec peu. Les lumières aussi aident beaucoup. Le jeu de lumière peut permettre de créer des ambiances, finalement, avec peu de moyens. Et puis, on a aussi tout un travail sur le son. Un étudiant, Marc, qui est en master audiovisuel, qui a créé les sons de la pièce et des musiques aussi, qui habillent, je pense, beaucoup l'espace et nous permettent de nous projeter beaucoup plus facilement.
gueule de chercheur. Gueule de chercheur.
Nos futurs ou No Future, c'est le titre de la pièce de théâtre portée par Louise Bernard et l'équipe d'étudiants et d'étudiantes qui l'entourent. C'est aussi la thématique de la Nuit européenne des chercheurs 2023, présentée ainsi. Au siècle dernier, lorsqu'on parlait de futur, on imaginait des voitures volantes, un monde rempli de technologies. Aujourd'hui, nous imaginons le futur avec de nombreuses pistes possibles. Une piste avec la technologie très présente, bien entendu. Une autre avec un retour à l'essentiel. Et peut-être un futur où l'humain ne serait plus présent. Toutes ces pistes sont des hypothèses amenées par des chercheuses et des chercheurs qui construisent le futur. La recherche et ses dizaines de disciplines offrent un panel de voix et d'idées pour l'avenir.
Je ne sais pas vraiment comment je m'imagine 2040, d'autant plus que là, on a écrit vraiment à trois, hein, avec Enora et Amélie. Donc, c'est vraiment une vision commune, puis la vision de l'ensemble du groupe. Donc, finalement, je me pose assez peu la question de ma vision et mon ressenti. Je ne pense pas être éco-anxieuse, peut-être davantage éco-furieuse. Je comprends les gens qui ressentent de l'anxiété, mais je pense que nous, on est beaucoup à avoir les moyens d'agir et de se mobiliser pour d'autres qui ne les ont peut-être pas. Donc voilà, il faut peut-être essayer de dépasser ce moment d'anxiété pour justement s'engager. Et en fait, tous les étudiants qui sont avec nous là dans le projet, ils nous disent « Faire ce projet, ça m'a permis un peu de soigner mon éco-anxiété et de me mettre à l'action et d'échanger avec le public, avoir des retours, ça permet de ne plus se sentir seul. » Donc je pense qu'il faut vraiment essayer de ne pas rester isolé et échanger. En fait, c'est ça qui nous enrichit.
Bon appétit.
Merci, toi aussi.
Tu ne remarques rien?
C'est-à-dire?
Bah, ton repas.
Ouais.
Mais il est complètement végétal, ça ne te surprend pas?
Pas vraiment, mais c'était déjà assez répandu comme nourriture en 2020. Mais oui, c'est super. Merci.
Ah ouais. Mmh. C'est là que je vois qu'on n'est pas de la même génération. Pour moi, ça a été une vraie découverte. Mais c'est génial! Maintenant, je sais ce que je mange.
Et... ça te crée pas des frustrations? Je veux dire, il n'y a pas des aliments qui te manquent
Le maïs.
Ah oui?
Oui, avec les problèmes des sécheresses, pas forcément la culture du maïs ici, c'est plutôt ciao. Alors, du coup, je m'en fournis via une filiale clandestine. Mais ça reste entre nous, hein. Après, là, je deal avec ma propre moralité. Le plus important, ça reste quand même de faire plus attention. On fait tous de notre mieux pour s'adapter correctement et améliorer un peu la situation.
Mmh. Ouais. On s'adapte. C'est ce que tout le monde me répète.
Si je devais donner des conseils à des étudiants et étudiantes, je dirais de foncer, profiter de toutes les possibilités que nous offre l'université, le CROUS, de faire des activités associatives, culturelles, nous engager. Voilà, ça peut être difficile quand on est étudiant, on n'a pas tous le même temps, les mêmes ressources, mais je pense qu'il y a toujours possibilité de trouver un petit peu de temps, de saisir ces possibilités que nous offre l'université. On a tous des compétences, des capacités qu'on peut développer, des choses à offrir ou des choses à apprendre des autres, et aller parler à son voisin, essayer de s'engager dans une activité, et puis s'amuser.
Même si ça a beaucoup déstabilisé mon modèle, que j'ai dû abandonner des rêves, je reconnais que la transition a eu du bon. J'aime bien râler, mais c'est une belle avancée. Eh, on a réussi à écrire un monde moins con.
Je me souviens de ma colère quand on a vécu ces moments où les catastrophes se sont enchaînées. Je voulais pas de ce monde.
Moi, je suis contente de vivre en 2040. Même si, bon, je connaissais pas le monde d'avant, c'est sûr. Mais j'apprends un peu au collège. On a commencé un cours sur les systèmes d'exploitation humain. Ça va retourner le cerveau, j'ai rien compris.
Les mœurs du premier 21e siècle peuvent se définir comme une consommation de masse hyper individualisée.
D'un coup, il y a eu besoin de plein de déconstructeurs de bateaux. Et moi, ça m'a arrangé, j'avais pas de boulot.
Certains auteurs parlent d'un hédonisme consumérisme aveugle, aveugle au changement substantiel de l'environnement. Cette période est désignée comme l'ère de la myopie capitalistique.
Ça a pris du temps, mais j'y ai cru. Et en choisissant les bonnes espèces, on a retrouvé un sol à peu près fertile.
Faire rupture, c'est ça qui m'a rendu libre. Ce que je veux retenir, c'est qu'on n'était pas beaucoup, on n'était pas écoutés. Mais on a cru en nous, en nos valeurs, en notre force. Et surtout, on s'est battus. Alors je le dis à tout le monde maintenant, si quelque chose vous gêne, écoutez-vous, organisez-vous et agissez.
Avoir 20 ans dans les années 2020, c'était pas facile.
Mon rapport aux autres a complètement changé. Tenez, avant je pensais que passé 70 ans, je serais seul, avec peut-être quelques amis, tu vois. constitué par les canicules à la fourmis. Mais pas du tout. Les événements ont fait ressortir le besoin d'agir collectivement. Au fur et à mesure, on a commencé à dire que ça permettait de faire plus de choses. Et puis, surtout, okay, on était bien ensemble. On disait qu'à partir d'un âge, on faisait plus de nouveaux amis. Eh, n'importe quoi, je m'aurais entouré et ça, c'est un plaisir.
Vraiment, on se sent bien.
Il ne faut pas avoir peur de la nouveauté.
On va pas se mentir, quand je suis arrivée, c'était pas facile. J'avais beaucoup de mal à me projeter, je vivais dans le stress de devoir repartir ou de devoir tout reconstruire. Mais au fur et à mesure, en voyant ce qu'on pouvait réussir à construire, ça m'a redonné l'espoir. Tout n'est pas fini.
Finalement, ce que vous voulez, c'était juste une société plus égalitaire et écologique. Que c'était pas vraiment personnellement qu'ils en avaient.
Un jour après la tempête, je suis allée à une réunion dans mon quartier et là-bas, quelqu'un a demandé « Chacun d'entre vous, est-ce que vous vous êtes réellement remis en question? Est-ce que vous avez réfléchi à ce que vous pouviez faire et à si vous faisiez tout pour le mettre en place ?» Pour moi, ça a été le début.
Cet épisode d'Univox, spécial Gueule de chercheur, a été réalisé par Radio Pulsar pour le réseau Radio Campus France.